BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui commence, comme d'habitude, par un survol de l'actualité économique avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
La Banque Centrale Européenne réunit son conseil de surveillance. L'institution doit discuter du stress et des vulnérabilités dans le secteur bancaire. Hier, la BCE a décidé de maintenir le cap du resserrement monétaire malgré les turbulences avec une hausse des taux de 50 points de base. Le gouverneur de la Banque de France rassure ce matin sur la solidité des banques européennes. François Villeroy de Gallo a souligné sur le plateau de Good Morning Business la différence avec le système bancaire américain. On l'écoute.
Les banques européennes ne sont pas dans la situation de certaines banques américaines dont vous parliez.
Vous êtes sûr ?
Pour une raison très simple. Pour une raison très simple qui est qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Les règles qui s'appliquent en Europe sont des règles très renforcées depuis la crise financière. C'est ce qu'on appelle Bâle III, dont on a souvent parlé, qui ont parfois été critiquées par la profession. On nous a demandé d'alléger Bâle III. Je crois qu'on est en train de voir l'efficacité de Bâle III. Bâle III, ça impose des règles de sécurité aux banques européennes, des règles sur leur liquidité, c'est-à-dire leur trésorerie, des règles sur leurs fonds propres. Et en Europe, la quasi-totalité des banques sont soumises à Bâle III. On est à plus de 400 groupes bancaires. Je redis que les banques françaises et européennes, elles sont extrêmement solides.
Outre-Atlantique, les grandes banques de Wall Street volent au secours de First Republic, banque régionale d'une taille équivalente à celle de la Silicon Valley Bank qui doit faire face à la fuite de clients et au plongeon de son cours de bourse. JP Morgan, Bank of America ou encore Wells Fargo se sont engagés à lui verser 30 milliards de dollars pour stopper le domino des faillites bancaires aux États-Unis. Retour à l'actualité en France avec ce 49.3 qui ne passe pas. La contestation contre la réforme des retraites s'organise. La raffinerie Total Energy de Normandie sera arrêtée dès ce week-end. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue par les syndicats pour jeudi prochain. À l'Assemblée nationale, après le 49.3 dégainé par Elisabeth Borne hier, les oppositions vont déposer plusieurs motions de censure. L'une d'elles sera transpartisane, celle du groupe des députés indépendants Liotte, et elle sera soutenue par la France insoumise. Le président chinois attendu à Moscou dès lundi, une visite d'État de 2 jours qui renforce un peu plus les liens entre la Chine et la Russie. Xi Jinping et Vladimir Poutine disent vouloir approfondir leur coopération stratégique, notamment sur la scène internationale. Selon la presse américaine, le dirigeant chinois devrait également s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Casino poursuit son désengagement dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí. Le groupe français de distribution a cédé 19% du capital pour plus de 720 millions d'euros. L'opération vise à accélérer son désendettement avec 11,7% encore en portefeuille. Casino ne contrôle plus la société brésilienne. Et on termine avec Optical Center, soupçonné de fraude fiscale en bande organisée et blanchiment. L'enseigne fait l'objet d'une enquête à la suite d'un signalement de Tracfin. Plusieurs perquisitions ont été menées hier. 7 personnes ont été placées en garde à vue.
Merci beaucoup Faiza Younsi, chaque heure pour suivre cette actualité économique. Nous, c'est l'heure de se connecter avec une salle de marché.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est la salle de marché d'Odo BHF qui, comme chaque vendredi, nous ouvre ses portes. On y retrouve Mickaël Jacobi. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Allez, je vous pose la même question que celle que j'ai posée à Antoine Larigauderie à 10h, que j'ai posée à nos deux traders à 10h30 pour leur match. Ça va re-bien sur les marchés ?
Pas du tout. Alors, si, sûrement. non. Alors, effectivement, on a un timide rebond tenté en début de journée. La tendance est plutôt baissière, mine de rien, puisqu'on était plutôt assez solide en début. Et là, on s'oriente plutôt vers un marché étal. Hein. On est à 0,30%. Donc, on défend les 7000, ça c'est sûr. On est à 7049 actuellement. En revanche, aujourd'hui est une journée extrêmement technique. C'est une des plus fortes à attendre en termes de volume. Alors, on est vraiment juste avant la tourmente ou en tous les cas le tourbillon de volume qui va nous tomber dessus. On est une journée de 4 sorcières et c'est probablement la plus intense de l'année et probablement une des plus grosses séances depuis très longtemps. Donc, on est juste avant. Donc, ça va swinguer, si vous me permettez l'expression. Et parce qu'on a 4 expi, on a beaucoup de rebalancements qui vont se faire et ça va donner beaucoup de volume et c'est extrêmement difficile d'appréhender le sens sur lequel on va clôturer cet après-midi.
Bon, bah dis donc, il y a quand même ces questions autour de la banque. Alors, voilà, question, depuis des mois, on nous dit, ah, vous allez voir ce que vous allez voir, le secteur bancaire, il va profiter finalement de cette hausse de taux. Et puis depuis 96 et quelques heures, on nous dit, bah voyez, c'est la hausse de taux qui met des bâtons dans les roues des banques. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Écoutez, il faut faire la différence entre certaines banques qui ont des expositions risquées. Et là, on revient à toute problématique que nous avons déjà vue depuis la crise financière de 2008, avec des protections qui sont plutôt en place en Europe. Et ça, malgré, on va dire, une situation difficile chez Crédit Suisse. Mais en fait, Crédit Suisse, aujourd'hui, a un problème de management qui est connu, qui est identifié depuis au moins 6 mois. On a effectivement des problèmes de liquidité, des problèmes de confiance dans cette structure, que ce soit au niveau de la banque de détail sur place et donc des clients et bien évidemment de leur contrepartie. En revanche, ce qui est clair, c'est que, ou en tous les cas, ce que peuvent espérer les intervenants de marché, c'est que, vu l'importance de Crédit Suisse dans le système européen et bien évidemment suisse, que cette banque sera défendue. Qu'elle reste dans cette même situation et qu'on n'accélère pas un tout petit peu la restructuration nécessaire pour sécuriser, en tous les cas, l'institut. Bon, ça c'est évident qu'on est en train de voir quelques changements. L'autre problème auquel vous faites appel ou référence, c'est effectivement ce qui se passe aux États-Unis. Et là, bah, en fait, les petites banques régionales pâtissent en fait d'un assouplissement lié à la réglementation initiée par l'ancien président Trump, qui a donc, on va dire, amélioré la profitabilité et en même temps empiré le contrôle et le suivi de risque des établissements, on va dire, de petite ou moyenne taille. Ce qui fait le problème qu'on a aujourd'hui avec les deux secteurs bancaires. Et effectivement, c'est compliqué. Et il faut rester, on va dire, assez conservateur. On est loin d'être sorti de la crise.
Merci beaucoup, Michael. Michael Jacobi, donc Oddo BHF, ce matin avec nous. Le marché parisien qui reprend effectivement modestement 0,33%, 7048 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Ombretta Signori. Bonjour Ombretta.
Bonjour.
Pour Ophi Invest AM. Et Stéphane Déo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Pour Ostrom AM. Y a-t-il un problème bancaire, Ombretta ?
Alors, déjà, il faut dissocier les problèmes américains et les problèmes de Crédit Suisse. Ouais,
c'est ce que nous rappelait Michael Jacobi à l'instant.
Voilà, le fond des problèmes n'est pas le même. On peut dire effectivement à l'instant on a rappelé en fait qu'il y a eu un allègement en fait de la régulation sur les petites banques américaines et en plus il y a eu une mauvaise gestion en fait de l'actif et du passif de Silicon Valley Bank et en plus de ça on avait une forte concentration en fait des activités de la banque sous la technologie. Donc c'est quand même un cas particulier. Mais n'empêche que cela globalement a été bien géré par les autorités américaines, Fed et
tout à fait comme presque Crédit Suisse, enfin comme Crédit Suisse a pour le moment été aussi bien géré par les autorités suisses malgré
mais,
tout.
Mais en fait les données de ce matin qui ont été publiées, donc ils ont montré que sur une semaine, les prêts octroyés par la Fed et le Fonds de dépôt garanti aux États-Unis, ils sont passés de 15 milliards à plus de 310 milliards. Donc ça montre bien qu'ils ont bien fait d'intervenir, non seulement pour calmer l'effet panique, mais parce que il faut à tout prix garantir en fait la liquidité sur le système interbancaire. C'est ça qui avait bloqué en 2008 et qui manquait en 2008. Donc ça montre bien qu'ils ont réussi pour l'instant à gérer un stress qui est quand même présent aux États-Unis.
Oui. Donc, et on sait bien que ce secteur financier, au sens le plus large, ce qui est le ciment de tout, c'est la confiance. Et là,
voilà,
ça peine un peu.
Ce qui est commun, en fait, c'était plutôt l'enchaînement des événements presque en même temps aux États-Unis et en zone euro qui a effectivement fait stresser les marchés. Mais les deux événements, je dirais, ils sont pas liés. C'est pas les mêmes problèmes.
Stéphane, y a-t-il un problème bancaire ?
Oui, il y a un problème bancaire, mais je suis très impressionné par la réaction des autorités, à la fois le régulateur, les banques centrales.
Vous voulez dire, on a appris ?
On a appris, puis on a réagi vraiment très, 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 très vite. La réaction de la Fed, de la FDIC, donc, qui est le régulateur américain ce week-end, était très impressionnante. Il y a un problème, indubitablement. Je rappelle que le FDIC, donc le régulateur américain, estime que les pertes non comptabilisées sur les portefeuilles obligataires sont de plus de 600 milliards de dollars aux États-Unis. J'ai regardé... Perte latente, voilà. Le capital des banques, c'est à peu près 2200 milliards. Donc si on passait ces pertes, là ce soir, il y a un tiers du capital des banques qui disparaît. Donc oui, il y a un problème, sauf que la Fed est arrivée en disant, attendez, vous avez des pertes, mais nous on vous les reprend au coût d'achat. Et donc on vous donne de la liquidité au coût d'achat. Donc effectivement, à votre actif, vous avez des problèmes, votre...
Mais il n'y aura pas de problème de liquidité.
Mais on vous donne toute la liquidité dont vous avez besoin. Et donc, vous achetez du temps. Donc, est-ce qu'il y a un problème ? Oui, parce que y a toujours ce trou, mais qui petit à petit va se résorber. Oui, parce que les petites banques sont sous pression. Il y a quand même beaucoup d'attrition. Je rappelle que la régulation américaine est relativement stricte, mais uniquement pour les banques de plus de 250 milliards d'actifs. C'est-à-dire une dizaine, une douzaine, alors qu'il y a 5000 banques hein, aux États-Unis. Donc les moins régulés, évidemment, si vous avez 10 millions dans une petite banque de l'Arkansas, vous allez les retirer et les mettre...
Et les mettre dans une grande banque.
Dans une grande banque. Donc on voit cette migration, donc les petites banques sont énormément sous pression.
Donc il y a ce petit bank run quand même.
Il y a une espèce de mini-banque... Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler bank run, mais oui, il y a une attrition des dépôts qui est... On n'a pas les chiffres exacts, mais vous l'avez dit, ces banques sont allées à la Fed chercher des liquidités, c'est bien qu'il y a une raison.
Alors, ça c'est pour le problème bancaire, donc allons plus loin. Est-ce que du coup, il y a une crise financière ?
Pour l'instant, je pense que les autorités dans l'ensemble ont réussi quand même à contenir le risque. Ils ont bien agi rapidement pour ça. Je pense que ce qui s'est passé montre quand même que l'euphorie, surtout des bourses, en début d'année, ils avaient fait plus 15, plus 20. Ça montre quand même que on avait peut-être oublié qu'il faut du temps pour voir les effets sur l'économie réelle du resserrement monétaire passé. Et là, ces épisodes-là nous ont montré qu'on doit probablement encore voir les effets du resserrement. Nous, on le répète depuis pas mal de temps, qu'il faut au moins un an et demi pour voir ça. Donc, c'est peut-être la preuve qu'il faut être un peu plus prudent de ce côté-là.
Ça veut dire ce que nous dit Ambretta, que finalement, les petits replis d'inflation auxquels on a assisté, c'était pas déjà l'effet de la Banque centrale, mais plutôt l'effet de ce qui avait poussé les premières pressions inflationnistes, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement qui étaient bloquées. Enfin, c'était toutes les conséquences de la crise Covid qui, se résorbant, avait permis de résorber un peu l'inflation et qu'il va falloir encore attendre quelques semaines où on commence tout juste à voir les premiers signes de cet énorme resserrement, notamment américain.
Alors, on commence à voir les signes, c'est-à-dire que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même vitesse. Il y a un secteur qui prend les hausses de taux de plein fouet, c'est le secteur immobilier. On a bien vu un effondrement des transactions. Mm-hmm. Quand vos taux d'emprunt passent de 2-3% à 8% en un an, forcément, ça a un effet immédiat. Et on voit les prix qui baissent, donc on voit les loyers qui baissent. Or, les loyers, c'est en partie dans l'inflation, en tout cas aux États-Unis. Donc ça passe dans les tuyaux extrêmement vite. Donc il y a quand même un effet. Par contre, nous, on reste très dubitatifs sur le potentiel de l'inflation à beaucoup baisser. Vous avez eu ce matin les chiffres de coûts salariaux en Europe, 5,7. C'est-à-dire que les salaire progresse de 5,7. Alors, on m'a raconté tout l'année dernière qu'il n'y avait pas de pression salariale. Heureusement, parce que quand vous atteignez quasiment 6% de pression salariale, ça commence à faire beaucoup. 6%, ça veut dire que c'est des coûts pour les entreprises. ça veut aussi dire que elles vont répercuter ça sur le consommateur final. Et si elles répercutent ça sur le consommateur final, ça s'appelle de l'inflation. Donc je pense qu'il y a une inertie de l'inflation qui est très très forte. Et paradoxalement, je pense que ça explique la réaction des régulateurs, des banques centrales, d'accord, très rapide.
Mais bon, pour compléter le propos d'Ombretta, il n'y a pas de crise financière pour vous ?
Pour l'instant, non. Bon. Pour l'instant, je
donc,
pense
du coup, pas de crise financière, pas de vrai problème bancaire, entre guillemets, enfin au sens global. Ça veut dire que hier, la BCE a eu raison d'en remettre 50 et peut-être que la semaine prochaine, Jérôme Powell aussi aura raison de poursuivre son resserrement.
De notre point de vue, la BCE a bien fait. Si elle n'avait pas fait ça, le contre-coup, par exemple, sur les marchés aurait pu être bien pire, parce que ça veut dire qu'il y avait...
Ils avaient un doute.
Un risque des infos systémique qu'on n'avait pas. Réel derrière. Donc, et d'ailleurs, ce que Christine Lagarde, hier, a essayé de faire, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de compromis entre la gestion de la stabilité des prix et la gestion de la stabilité financière. La Banque Centrale Européenne a tout un tas d'outils qu'elle peut déployer immédiatement pour gérer, en fait, si jamais il y a un problème, un souci de liquidité sur la banque, sur le système bancaire. Du point de vue macro, effectivement, comme Stéphane l'a dit, et surtout en zone euro, on est encore dans une phase de transmission des prix des entrants sur le reste des prix. Et notamment sur l'inflation moins volatile, donc sous-jacente, plus persistante, on est encore dans un schéma croissant de l'inflation sous-jacente. Donc de ce point de vue-là, si jamais les risques sur la stabilité financière se normalisent ou vont rentrer, il n'y a pas de raison pour que la BCE soit arrivée à la fin de son resserrement monétaire. Pareil pour la réserve fédérale.
Oui. Les 50 points, c'était le bon choix hier ?
Oui, tout simplement. Je pense que l'énorme risque fait des BCE, d'ailleurs, c'est de dire il y a un problème sur le secteur financier, on ne peut plus monter les taux, on ne lutte plus contre l'inflation. Parce que là, avec les niveaux d'inflation qu'on a à l'heure actuelle, les niveaux de pression salariale, vous construisez une bombe à retardement.
La porte ouverte à toutes les fenêtres.
Alors, d'une part, je pense que ça n'aide pas. Une fois de plus, si vous retirez votre argent d'une petite banque de l'IDAO pour aller dans une grande banque, ce n'est pas 25 BP de baisse des taux qui vont changer. C'est de l'arbitrage réglementaire, ça n'a rien à voir avec le niveau des taux. Donc non seulement je pense que ça ne servirait pas énormément, mais ce serait aussi un signal qu'on abandonne l'objectif de ramener l'inflation à un niveau plus correct. Et ça, à terme, ça se paye très, 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 très cher. Donc oui, 50 BP, c'était...
Et pareil pour la Fed de la semaine prochaine. Enfin, quand on voit Nomura qui dit qui parie, elle, sur 25 points de base de baisse.
De baisse, oui. Non, nous, on est toujours sur 25 BP de hausse sur la semaine prochaine sur la Fed, sur exactement la même logique. C'est-à-dire que la Fed est beaucoup plus avancée que la BCE, donc ils sont probablement beaucoup plus proches de la fin de leur cycle de hausse. Mais ils ont exactement le même problème que nous. Et alors, en plus,
je vous rappelle quand même que... mardi dernier, enfin non, mardi il y a 8 jours, ouais. Quand Jérôme Powell s'exprimait devant...
50.
Il a dit tout 50. Le monde s'était dit, c'est bon, on est sur des rails, c'est 50.
C'est 50.
Et là, vous nous dites 25, donc... Ombretta.
Nous aussi, on pense qu'elle va faire 25 la Fed la semaine prochaine, parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces épisodes-là ont peut-être changer la fonction de réaction des banques centrales. Elles vont prendre plus en compte le délai de transmission qu'il y a de la politique monétaire, dans un sens où peut-être les anticipations que les marchés avaient il y a juste une semaine sur les banques centrales étaient peut-être exagérées ou en tout cas avaient atteint des niveaux excessifs. Mais il n'y a pas de raison que la réserve fédérale arrête de monter les taux en ce moment, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le marché du travail et l'inflation auraient plutôt ouvert la porte à une hausse de 50 points de base la semaine dernière.
Du coup, bon, il n'y a pas de crise bancaire. Enfin, il n'y a pas de problème bancaire. Il n'y a pas de crise financière.
Ouais.
Les banques centrales vont poursuivre leur mouvement de hausse de taux. Donc, on devrait garder notre appétit pour le risque. Pour autant, tout le monde dit quand même oui, mais bon, les banques vont quand même probablement un peu réduire le crédit. Si elles réduisent le crédit, ça va forcément limiter la marge d'appel à de l'argent frais par les entreprises qui ne pourront plus avoir recours, entre guillemets, au crédit. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'économie réelle, de vie des boîtes? Parce que pour le moment, quand on regarde la saison des résultats qui vient de se terminer, c'est plutôt bon. Et ça justifiait aussi cette marche en avant des indices, notamment européens, en ce début d'année. Qu'est-ce qui va se passer là? On peut continuer à avoir confiance? On peut se dire qu'effectivement, passé l'émotion, les marchés devraient reprendre leur marche en avant, qu'on devrait poursuivre finalement ce qui se passait avant vendredi dernier?
Alors, nous, on n'a pas changé nos prévisions. Pourquoi? Parce que y a quand même un problème bancaire. Il ne faut pas non plus complètement tout oblitérer. Je pense que les petites banques aux États-Unis sont sous pression. Or, elles financent beaucoup le tissu de PME aux États-Unis. Et les problèmes de Crédit Suisse ont quand même mis beaucoup de pression sur le coût de financement des banques. Donc, vous allez, comme vous l'avez dit, avoir un resserrement du crédit. États-Unis et Europe, parce que les banques vont vouloir prêter un petit peu moins, elles vont être prudentes, etc. C'est exactement ce que la Fed et la BCE veulent. En fait, ce qu'on avait, nous, dans nos prévisions, c'est Fed et BCE qui montaient les taux pour resserrer les conditions de crédit. Là, vous allez avoir ça en partie par les banques. Donc, peut-être que la Fed et la BCE vont faire un petit peu moins que ce à quoi on s'attendait. En gros, les banques font le sale boulot de la Fed et de la BCE à leur place. Mais du coup, ça nous amène à peu près à la même histoire, pour des raisons différentes, hein. C'est la même histoire, c'est-à-dire vous avez un resserrement monétaire, parce que cette satanée inflation, on ne veut pas baisser, etc., qu'on n'a pas le choix. Par contre, effectivement, mon resserrement monétaire, il est fait un petit peu différemment.
Il n'est pas fait au même étage.
D'habitude, c'est les banques centrales. Et d'ailleurs, Philip Lane avait beaucoup souligné cet aspect-là. Il avait dit, quand on regarde l'impact des hausses des taux, on regarde le mécanisme de transmission. Donc implicitement, il dit, est-ce que les banques veulent prêter à l'économie? Et là, clairement, ça va diminuer.
Comment vous voyez cette espèce de transmission qui pourrait finalement tomber sur les boîtes qui ont fait le job quand même, y compris en Europe, qui sont très désendettées depuis la crise de 2008, depuis la crise des dettes souveraines et autres?
Mais nous, on n'a pas changé notre avis là-dessus, c'est-à-dire qui était celui de dire qu'un ralentissement et probablement une récession devrait arriver aux États-Unis. Mais d'ailleurs, c'était un peu le but de la Fed, hein, ce resserrement-là, de calmer la demande. Maintenant, l'effet de transmission effectivement passe par les banques. Donc ce qui se passe là, on parle déjà la presse américaine de réaugmenter la régulation sur les petites banques, donc avec une taille en deçà de 250 milliards de dollars, ce qui pourrait réaugmenter en fait le coût de financement pour empirer encore ou détériorer en fait pour le coût de refinancement pour toute la clientèle de ces banques là. D'autant plus que après on a un autre voie de transmission qui est celle des entreprises. Le coût de financement, on a peut-être pas suffisamment regardé ou oublié que les conditions de financement des entreprises se sont vraiment détériorées. On est sur les niveaux des récessions passées. Donc tout cela mis ensemble, en plus du fait que la demande des consommateurs américains devrait quand même se calmer parce que ils ont déjà pas mal puisé sur leur épargne passée, tout cela fait que on pourrait avoir cet ensemble en fait de ralentissement, d'effets négatifs. Maintenant, la question est quand. C'est plutôt le timing qui est difficile à prédire. Mais voilà, d'ici les prochains trimestres, ça nous ramène plutôt à un ralentissement marqué.
Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font, nos auditeurs, avec leur portefeuille? Là, ils ont perdu quelques-uns des gains accumulés depuis le début de l'année. On va dire rien de grave, mais il faut quoi? Il faut faire le dos rond, il faut arbitrer un peu, justement, avec le prisme peut-être de la dette des entreprises. Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de faire?
Nous, pour nous, le scénario central n'a pas changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, clairement, la probabilité d'un accident a augmenté. Alors, elle n'est pas forcément très élevée, mais c'est indubitable. Mais... Donc, on est un petit peu prudent. On pense que les banques centrales doivent continuer à monter les taux. Donc, on pense qu'il y aura des opportunités pour rentrer sur le marché obligataire quelque part au milieu de l'année où les taux seront élevés. Et là, ça permettra de rentrer à des niveaux très appétissants sur les taux d'intérêt. En attendant, c'est vrai qu'on cherche plutôt des solutions d'attente. Sur le crédit, on n'est pas inquiet sur les fondamentaux. Moi, j'ai un modèle de taux de défaut pour le high yield, c'est-à-dire le crédit de mauvaise qualité, qui va grosso modo à la moyenne de long terme. Donc, on part quasiment de zéro. Donc, ça se détériore. Mais dans
mais une... pas de... Voilà.
Il n'y a pas péril en demeure. Et les valorisations sont à peu près en ligne avec ça. Donc, aller sur du crédit court terme qui paye pas mal. Je vous rappelle que sur l'IG, donc les crédits de bonne qualité, on était au-dessus de 4% de rendement.
L'IG, on rappelle, c'est l'investment grade.
Investment grade, par opposition à high yield, qui est le
haut rendement.
Le haut rendement. Et donc, sur l'IG, on était à plus de 4% de rendement en début d'année, ce qu'on n'avait pas vu depuis 11 ans. Donc c'est une bonne solution d'attente avant de rebasculer sur des taux quand on aura atteint le pic d'ici quelques mois.
En Bretagne, qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Alors nous, avant toute la saga sur les banques, on était prudent sur les actions parce que justement on pensait que les marchés avaient quand même trop regardé cet emballement de révision à la hausse sur la croissance. Il y avait des risques haussiers sur l'inflation, baissiers sur la croissance, donc on était prudent. Maintenant, si on rajoute à ce risque-là, plutôt macro, le risque financier en plus, qu'on ne peut pas écarter, bah on est plutôt confortable sur notre position. Pour l'instant, c'est vrai que les niveaux commencent à devenir intéressants à l'achat, mais on ne va pas se précipiter pour appuyer sur le bouton. À l'inverse, sur les taux d'intérêt, il y a peut-être eu, à notre avis, une surréaction, là encore, des marchés qui, jusqu'à hier ou avant-hier, pensaient que les banques centrales, ils avaient fini leur travail et n'arrêtaient plus. N'aurait plus remonté les taux. Pour nous, encore une fois, si les problèmes vont disparaître, il n'y a pas de raison que ça arrive. Et donc, on est opportuniste. On peut à nouveau sous-pondérer les obligations, mais ça reste du tactique. Parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, c'est-à-dire qu'on voit quand même un ralentissement plus marqué de l'économie américaine dans la deuxième partie de l'année.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges très riches. Ombretta Signori pour Ofi Invest AM et Stéphane Déo pour Ostrom AM. Bonne fin de semaine sur ce marché qui, pour le moment, semble vouloir tenir, enfin en tout cas semble vouloir organiser la résistance. On ne grignote plus que 0,04%. On va voir ce qu'on dit dans un instant. Stéphane Sauduteil, n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Bon, finalement, ce marché, il semble avoir épuisé ses capacités de résistance et on est de retour autour du niveau de clôture d'hier soir. Certes, modestement dans le vert pour le moment, mais il y a une toute petite poignée de minutes, on était sous le niveau de clôture d'hier soir. Que faut-il penser de ces atermoiements? C'est Stéphane Sauduteil qui suit les évolutions de ce marché depuis ce matin pour nous et qu'on retrouve chez Technibourse. Alors Stéphane, livrez-nous votre regard de ce profil que l'on observe depuis ce matin, cette lente érosion qui nous a ramené au point zéro.
Oui, c'est vrai, le secteur bancaire a réduit ses gains, le secteur du luxe a perdu un petit peu plus que ce matin, et donc ça a entraîné, puisque c'est deux fortes pondérations sur l'indice CAC 40, ces deux secteurs, donc ça a entraîné le CAC 40 à la baisse. On a cassé le niveau que je vous fixais à 10h30 à 7040 points, donc là le prochain objectif c'est 7010 points à peu près. On a une zone de support sur ce niveau. En dessous, ça serait plus préjudiciable quand même. On pourrait redémoraliser les investisseurs et voir de nouveau les 6950, 6900. Bon, j'ose pas trop y croire quand même pour aujourd'hui, compte tenu de la forte progression de Wall Street. Alors, c'est vrai que les futurs américains se sont un peu détériorés, mais on garde quand même énormément de gains acquis hier. Donc, ça reste pour moi un matelas de sécurité pour l'indice CAC 40. Donc, c'est pour ça que sous les 7000 points, je n'y crois pas trop pour aujourd'hui, même si on a une journée avec l'expiration des grands contrats sur indice, hein, qui peut quand même receler de la volatilité. Mais c'est vrai qu'après cette semaine où on a eu vraiment des hauts le cœur tous les jours, je pense que peut-être les investisseurs ont besoin un peu de souffler aujourd'hui. Je retiendrai quand même cette semaine la baisse du pétrole, puisqu'on a cassé ce fameux niveau de support à 80 et on a quasiment perdu 10 dollars, hein, on est allé presque sur les 70 dollars. Ça a eu pour effet de faire sortir de son range horizontal le CRB, l'indice des matières premières. Donc on évoluait entre 265 et 285 depuis de nombreux mois, et donc on est passé sous 265, on avait un potentiel à 245, on n'a pas tout à fait réalisé ce potentiel, mais c'est vrai que ça fait une baisse de 6-7% sur l'indice CRB, ce qui sera toujours bon, hein, pour l'inflation dans les mois à venir, si bien sûr on devait continuer à refluer. Et puis, on a quand même le secteur bancaire, hein, cette semaine, qui a été quand même assez attaqué. On a vu la Société Générale perdre quand même 14% jusqu'à presque 20% au plus bas cette semaine. Et finalement, elle a quand même du mal à rattraper un petit peu ce débours, malgré, hein, les solutions des 11 banques américaines au chevet de First Republic aux États-Unis. Voilà, donc c'est une semaine qu'on n'avait pas connue depuis bien longtemps en termes de volatilité. C'est vrai que au niveau du trading, il faut se réacclimater à tout ça, parce que on avait des progressions lentes, régulières depuis de nombreuses semaines, et là effectivement on a retrouvé beaucoup de volatilité. Les investisseurs étaient parfois un peu perdus, hein, à acheter, à revendre, à acheter, à vendre, à racheter massivement. Donc voilà, on n'est pas sorti, hein, de l'auberge tant que on n'est pas passé au-dessus des 7170, 7150 points. Voilà ce qu'il faut retenir.
Merci Stéphane. Stéphane Sauduteil et Technibourse qui nous accompagnaient ce matin. Le marché donc qui est de retour sur un point d'équilibre, un plus 0,06%, 7029 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Idée de fond avec la complicité de Clémence Dachicourt depuis Morningstar. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Ce matin, on dresse ensemble un bilan de la gestion active versus la gestion passive l'an dernier, pour 2022. Gestion active qui a tenu ses promesses de surperformance ou pas ?
Alors Morningstar vient de publier son baromètre actif-passif qui fait un point sur les performances des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à leurs homologues passifs dans leurs catégories Morningstar respectives. Donc l'étude reprend les performances de 26 000 fonds accessibles aux investisseurs européens qui totalisent 5,1 trilliards sous gestion.
Voilà donc le paysage posé, Clémence. Est-ce qu'il fallait donc miser sur cette gestion active ? On rappelle quand même que la période n'a pas été d'un grand calme.
Oui, l'année dernière était très négative sur les marchés boursiers. Les actions internationales ont perdu 17%, les obligations internationales 18%. Et dans un contexte de marché extrêmement chahuté, on aurait pu penser que la gestion active générait de la performance par rapport par des choix d'allocation d'actifs ou de sélection de valeurs, mais cela n'a pas été le cas. Sur les 12 derniers mois, le taux de réussite des gérants actifs n'est pas terrible. Moins d'un tiers des fonds actions ont survécu et surpassé leur homologue en gestion passive. Et il n'y avait que 3 catégories d'investissement sur lesquelles la gestion active affichait un taux de réussite supérieur à 50%. Alors côté obligataire, on fait un peu mieux, essentiellement pour ceux qui avaient choisi des réduits à la sensibilité de leur portefeuille dans un contexte de remontée des taux, mais seuls 46% des gestions actives obligataires ont battu leurs concurrents passifs en 2022.
Est-ce qu'on augmente nos chances de succès si on privilégie cette même gestion active, mais sur plus longue période ?
Oui, alors là encore, les chiffres sont décevants. Sur une fenêtre de 10 ans, 19% des stratégies obligataires actives créent de la valeur. Côté action, le taux de succès est de 23%. Donc, ça veut dire que même sur longue période, vous avez environ une chance sur cinq de sélectionner un fonds actif qui génère une meilleure performance qu'une approche passive.
Voilà quelques idées. Est-ce qu'il y a tout de même des catégories où ça vaut le coup de s'intéresser à cette gestion active ?
Alors, en règle générale, le taux de réussite sont plus élevés sur les marchés émergents ou sur les petites et moyennes valeurs, parce que ce sont des marchés sur lesquels il y a plus d'inefficience à exploiter. Sur les 10 dernières années, les taux de succès étaient meilleurs sur les stratégies de rendement, par exemple. Sur la partie action, les gérants qui ont surperformé avaient fait le choix de s'exposer sur l'énergie, aux dépens de la tech, des biens de consommation ou des télécoms. Sur la partie gestion passive, sur les taux, la gestion active fait généralement moins bien que la gestion passive, toutes catégories confondues, même si les gérants s'en sortent un peu mieux. Donc, c'est donc compliqué de trouver une stratégie active qui crée de la valeur. Les niveaux de frais de gestion élevés, prélevés par certains fonds, restent bien évidemment une cause importante de sous-performance. Donc, au-delà de l'expérience du gérant et de la qualité de l'approche d'investissement, les niveaux de frais élevés sont un élément assez simple à identifier et discriminant lorsqu'on sélectionne un fonds.
Merci beaucoup Clémence Dachicourt, donc Morningstar, qui nous accompagnait ce matin pour évoquer ces questions liées à la gestion active versus gestion passive. Bilan 2022, donc signé Morningstar. À très bientôt Clémence, bonne fin de semaine sur le marché. Le CAC 40 qui est revenu s'échouer sur son niveau de clôture d'hier soir. On grignote tout juste 0,06%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, on répond à toutes vos questions. Et aujourd'hui, à la manœuvre, François Monnier et Éric Blaine, vous êtes prêts, messieurs ?
Absolument.
François, on est prêts. Pour investir, Éric pour Swiss Life Gestion Privée. Tiens, on commence avec vous. François, c'est Pascal qui vous interroge. Thalès est-elle une bonne valeur dans ce contexte chahuté ?
Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir du Thalès aujourd'hui en portefeuille parce qu'on voit que quand même la plupart des voyants sautent au vert et il y a encore des bonnes nouvelles à attendre. D'abord, ça se passe bien sûr dans le secteur de la défense. On a des nouvelles et un redémarrage de l'aéronautique civile après la période Covid. Sur l'aérospatiale, les commandes arrivent. L'intégration de l'ex-Gemalto sur tout ce qui est sécurité numérique, ça se passe très bien. Donc résultat, on a un groupe qui est en croissance, rentable, avec des prises de commandes qui ont progressé de l'ordre de 16%, une marge de l'ordre de 11% qui devrait encore s'améliorer cette année. On devrait dépasser les 11,5, viser peut-être 11,8% de rentabilité, avec une croissance de 4 à 7% en organique. Donc, ça veut dire une croissance largement supérieure à la croissance économique mondiale et croissance, bien sûr, européenne. Et puis, on n'a pas encore des commandes qui vont venir après l'épisode ukrainien. Pour l'instant, il n'y a pas de commandes, entre guillemets, commandes de guerre. C'est plutôt du courant. Et on pense qu'à terme, il y aura des commandes, puisque bon, on le sait un peu partout, les stocks ont quand même tendance à s'épuiser. Donc, ils n'ont pas encore... entre guillemets, bénéficier de l'effort de guerre à venir des pays occidentaux pour défendre leur démocratie. Donc on a plutôt une bonne visibilité et des nouvelles encore qui vont permettre d'être plutôt rassurant, en tout cas sur le rythme de prise de commande et sur cette croissance qui est bien sûr bénéficiaire. Donc nous, on reste à l'achat sur Thalès et c'est une de nos valeurs préférées.
Donc, plutôt un avis positif, vous le partagez aussi, Eric ?
Je suis tout à fait d'accord avec François. Thalès devrait bien survoler la période actuelle. Et c'est une vraie tech. C'est vraiment une entreprise de grande technologie avec gros acteurs de défense. On le voit bien, d'électronique de défense en particulier. Et de tout ce qui est identité aussi. Donc, on a aujourd'hui des révisions bénéficiaires post-résultat. Ça, c'est moyennement passé, normalement, comme l'attendait le consensus, mais on a quand même les analystes qui attendent des meilleures performances en allant vers 2023, 2024, 2025 aussi, parce que c'est une industrie on voit loin. Et donc, quand on regarde l'évolution du consensus bénéficiaire et donc des analystes par rapport à l'ensemble du marché européen, on est mieux que le marché. Donc ça, c'est quand même intéressant, dans des secteurs, comme on le disait, qui sont quand même bien orientés. On a un PE de 16 fois, on n'est pas sur des PE technologiques ni françaises, ni européennes, ni américaine. On est à 16 fois les résultats, on a un rendement de 2,5%, on a un bon management. Moi, je suis assez d'accord avec François, il faut en avoir.
Bon, ben voilà, deux réponses qui vont dans le même sens, Pascal, et vous encourage sur Thalès. Question que vous envoie Colline, qui se demande si la chute récente du CAC est une opportunité pour renforcer ses positions, ou est-ce que c'est la fin d'un rallye boursier qu'elle juge avoir été détesté par les gérants. Vous détestiez ce rallye boursier
Ah, c'est un rallye boursier, on l'a entendu à l'instant, que les gérants actifs ont eu du mal à le prendre au bon, hein, ça c'est vrai. Donc oui, quelque part, il est vraiment détesté. Moi, enfin, c'est une année où je pense qu'il faut être prudent. Donc, c'est une année compliquée. Alors, on n'est plus d'ailleurs à 6008 comme on l'était. On est plutôt à 7000-7100. Hein, ça dépend des moments où on regarde le marché. Donc, il a finalement pas baissé tant que ça. Il y a quelques secteurs qui ont baissé sensiblement. Mais je pense que c'est une année où il faut être plutôt prudent, parce que dans une période de remontée des taux aussi agressivement, il y a effectivement des choses qui se désagrègent. Hein, il y a des bulles qui explosent. Il y a des choses bizarres. Donc, on vient de le voir avec le secteur bancaire, hein, avec cette alerte. Il y a des zones de risque sur la croissance, il y a des zones de risque sur la Chine, sur l'inflation et les taux, sur la guerre, la géopolitique, mais en général, et je pense aux États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine. La technologie américaine, elle est un peu sous pression. Et les marges des entreprises, ça a été fantastique jusqu'à maintenant, et elles sont au plus haut. Donc tout ça, je trouve qu'il faut être quand même prudent. Maintenant, oui, autour de 6008, moi je suis plutôt à renforcer les positions, et à 6004, je suis complètement investi sur Val France. Mais on n'y est pas, on est à 7000, donc je suis plutôt prudent sur ces niveaux.
François, comment est-ce que vous voyez effectivement ce moment de marché ?
Oui, c'est vrai que la baisse, elle est quand même. On en parle beaucoup parce que dès que ça, on parle du secteur bancaire et des difficultés qu'il peut avoir, tout de suite, on se remémore 2008 et donc on se joue entre guillemets un peu à se faire peur. Mais finalement, la bourse n'a pas baissé tant que ça. Donc dire qu'il y a pour l'instant il y a une opportunité à saisir parce qu'il y a un repli. Oui, si jamais on descendait vers les 6008, là, je pense que ce serait une occasion de dire allez, on utilise un peu de cash pour se renforcer sur les actions. Aujourd'hui, dire on se renforce sur les actions. Compte tenu de la baisse relativement modeste, peut-être de 2% cette semaine, on va voir comment ça va se comporter cet après-midi, mais là on est sur un repli qui est somme toute extrêmement raisonnable, donc je pense qu'il faut éviter au maximum de faire beaucoup d'arbitrage quand il y a peu de visibilité. Donc mais là, j'attendrai, je renforcerai et je me laisserai.
Et si on a besoin de faire un peu de liquidité, un peu de poudre pour la mettre au sec, justement, on peut arbitrer comment ? En regardant, par exemple, la dette, les boîtes qui sont très endettées, peut-être. Qui aura encore un beau parcours, peut-être prendre quelques...
Oui,
les boîtes endettées, elles viennent de baisser sensiblement. Hein, donc, c'est peut-être pas le moment, pour le coup.
Oui, non, je pense qu'il faut essayer de se raisonner et dire il faut du sang-froid, il faut essayer de pas trop bouger les portefeuilles.
Mieux vaut que l'une ne pas bouger, quoi.
Voilà, je pense qu'il faut attendre là.
Allez, on passe à la question que vous envoie Adrien. Quelles sont aujourd'hui les actions les plus risquées ?
Bah là, je pense que vous avez déjà un peu défleuré le sujet, puisque je pense que les entreprises qui ont de la dette aujourd'hui, c'est un sujet. C'est un sujet parce qu'on sait que le coût de la dette va être plus élevé dans les années qui viennent, dans un contexte où on a quand même un sentiment qu'il y a quand même un ralentissement économique. Donc, avoir de la dette aujourd'hui, c'est un handicap. Ça l'était pas il y a quelques années, quand l'argent était gratuit. Là, aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, il faut faire attention. Alors après, on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont bien géré la structure de dette pour pas avoir de dette trop élevée. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des foncières. Les foncières attaquent cette nouvelle ère avec la remontée des taux, avec trop de dettes. Donc, il faut faire très attention aux foncières, que ce soit les foncières de commerce ou les de bureaux. Et elles ont un petit peu trop de dettes à leur bilan. Ça, c'est le premier point. On a vu, par exemple, Unibail-Rodamco qui a énormément de dettes. Donc, bien sûr, ils coupent le dividende, mais le dividende, ça permet d'attendre, mais ça ne résout pas le problème d'un bilan. Hein. Ce n'est pas avec ça qu'on se désendette rapidement, massivement. Donc, il y a un sujet sur... Il faut bien surveiller les foncières, il faut faire attention peut-être sur les utilities. Et les sociétés qui ont raté le virage de dire « je vais faire une augmentation qu'on a attendue », là, la situation est un peu plus délicate. Donc, attention à la dette.
Même
je suis d'accord avec François, le mur de la dette est très important et il y a eu quand même beaucoup d'entreprises qui sont trop endettées et donc quand on a une période de remontée des taux, ça fait mal. Mais je pense aussi à d'autres risques. Hein. Il y a des risques sur la croissance à mon avis. Donc dans les produits de base, l'acier, je serais méfiant. Il y a des risques dans la technologie américaine et donc toutes les valeurs trop chères, trop détenues, trop avec des PER au-dessus de 25, moi je suis méfiant. Les entreprises qui n'ont pas de pricing power particulier, je pense à l'agroalimentaire, faut se méfier. Les entreprises qui sont dans la construction automobile exposées à la Chine, je dirais pas. Les médias, elles sont très cycliques, ça peut être des retours de papier importants. Donc il y a plein quand même de petits trucs sur lesquels il faut faire attention, je trouve.
Voilà quelques idées sur ces actions que vous vouliez connaître comme étant les plus risquées, Adrien. Question de Christian, quelle stratégie d'investissement sectoriel dans un cadre, une nouvelle fois, bien obscur?
Alors là, c'est un peu l'inverse.
C'est
oui.
C'est la forme ce matin.
Bon. Alors, moi, j'aime bien les rendements. Donc, je privilégierais les entreprises qui ont du rendement et qui sont pas très cycliques. Voilà. Ça fait quelques valeurs, par exemple, dans le pétrole, secteur pétrolier, en particulier donc Total Energy. Hein. Moi, j'aime bien la banque et l'assurance. Donc, il y a eu, pour le coup, il y a eu des belles baisses. Donc, c'est des occasions pour moi de se renforcer. Des secteurs où il n'y a pas grand monde, comme les télécoms. Orange, pour moi, est passé au vert. Les utilities, alors là avec François on a un petit différent, je pense qu'elles vont gagner de l'argent quand même parce qu'il y a un problème de production quand même d'énergie, donc elles devraient gagner de l'argent, mais certaines sont trop endettées, je suis d'accord, donc faut se méfier de là où on met les pieds. On parlait de Thalès, on peut parler de l'aérien. Je pense que là, pour le coup, on est plus dans le court terme. C'est-à-dire qu'on a, on a un redémarrage des Chinois et ils vont voyager, donc l'aérien. Mmh. On a Sanofi, qui est pas cher, qui est pas très détenu et qui a un beau rendement. Et puis, on a ces boîtes de construction françaises qui sont toujours assez solides, hein, Vinci, Eiffage, SPI, moi j'aime bien. Et puis, certainement, garder le luxe quand même, parce que ça continue de marcher quand même. Et là, il n'y a pas de dette.
Même question, François, c'est quoi vos secteurs préférés?
Ouais, Eric, on a cité une longue liste, donc je vais essayer de me distinguer quand même.
Et quel n'a pas pris?
Il n'a pas pris la tech. Et moi, je prendrai la tech.
Ah, vous investissez sur toute la cote.
Voilà. Pourquoi? Parce que ce qu'on a pu observer quand même au cours de cette semaine qui est un peu atypique, c'est que les investisseurs avaient peur. Il y a eu beaucoup d'arbitrage sur le marché obligataire avec des taux qui ont fortement bougé. On s'inquiétait sur les financières. Il y a eu une forte baisse des parapétroliers, des matières premières, etc. Et il y avait un secteur qui surnageait, mais assez de façon spectaculaire. C'est la tech américaine, les GAFAM. Microsoft gagne près de 12% cette semaine dans un marché extrêmement difficile. Alors qu'on se dit la tech américaine va souffrir, les banques ne les financent plus.
Oui, bien sûr.
Mais si, alors je mets des guillemets un peu partout, mais finalement les GAFAM sortent grandis de cette semaine pour deux raisons. La première, c'est que ils ont des concurrents, des startups qui innovent, qui vont avoir quelques problèmes de financement. Les GAFAM,
donc eux, ils vont pouvoir faire leurs courses.
Les GAFAM regorgent de cash, ouais. Aucun problème de financement. Ils ont une concurrence qui s'affaiblit parce que plutôt que d'innover, le manager va essayer de trouver de l'argent. Donc, plutôt que de travailler sur son métier, il va revêtir sa casquette de banquier ou enfin bref, il va passer du temps pour des problèmes de financement plutôt que de l'opérationnel. Et donc, les GAFAM vont voir la concurrence se réduire d'une part, et puis la valorisation de ces startups baisse. Donc elles vont pouvoir racheter des startups beaucoup moins chères. Et donc ça, le marché l'a tout de suite compris et s'est positionné sur les grands, les Apple, les Microsoft. Et puis deuxièmement, on a vu que il y avait une baisse quand même des rendements des emprunts d'État américains. Hein. Le 10 ans, une semaine on était à un peu plus de 4, on est passé à 3,6 extrêmement rapidement. Donc on a quand même une pression un peu moins forte sur la valorisation de ces grands acteurs. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflation, etc. Mais on voit quand même que On a peut-être fait un tournant avec ces premiers craquements. On va avoir des banquiers centraux quand même qui vont hésiter quand même à durcir plus que ça parce qu'ils voient que ça coûte très très cher. On a des banquiers centraux déjà qui ont changé leur complètement leur stratégie. Hein. Quand la Banque centrale américaine remet 300 milliards sur le tapis, c'est que on est plus en train de réduire le bilan. La réduction de bilan, c'est plutôt la priorité. La priorité pour tout le monde, c'est la stabilité du système. Et donc dans ce nouvel environnement, je trouve que les GAFAM qui ont connu une année difficile l'an dernier, pourraient très très bien s'en sortir.
Alors même qu'on se disait qu'on commençait à toucher la fin avec tous les problèmes sociaux qu'il y avait dans ces grandes GAFAM et autres.
Exactement. Donc ils sont
toujours aussi agiles aussi. Hein.
Ils sont toujours agiles. On a vu qu'ils arrivaient à gérer aussi leurs effectifs. Ils sont toujours innovants. Et donc, ils ont toujours de la croissance, une croissance bénéficiaire où il y a quand même un ralentissement économique. Eux, ils sont beaucoup moins touchés que les autres sur le ralentissement économique. Donc, avoir un peu de tech dans un portefeuille, je pense que c'est une bonne idée.
Question de Bernadette. Quand saurons-nous qu'il n'y a plus de risque sur les banques ?
Je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que le sujet, c'est la confiance. Ouais. Et ça, il faudra démontrer qu'il n'y a pas de nouvelle réplique. Donc là, on est un petit peu, tout le monde se regarde en disant à qui le tour. Hein. On sait qu'il y a énormément de petites banques américaines et donc on peut avoir à nouveau des petits soubresauts, des nouvelles répliques. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est le temps qui va nous permettre d'être rassurés. En attendant, la valorisation des banques va rester sous pression. On estimait à juste titre que la hausse des taux est profitable aux banques, ce qui est vrai. Et on se disait, on va avoir une nouvelle revalorisation du secteur bancaire qui distribue des gros dividendes. Et cette revalorisation, elle va prendre du temps parce que finalement, on voit qu'il y a des risques. Et donc là, on reparle de prime de risque sur un secteur bancaire où on pensait que cette prime de risque allait s'essouffler.
Tout est une question de confiance et c'est compliqué de reconstruire la confiance.
Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il y aura toujours des risques sur le secteur bancaire, mais il y a toujours des risques sur toutes les valeurs, sur toutes les entreprises.
Oui, mais on voit bien que s'il y a un risque industriel, ça se traite plus facilement parce qu'il faut réparer l'usine ou réparer la technologie, que de rebâtir une confiance sur un secteur dont c'est le métier de base, quoi.
Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet en zone euro sur le secteur bancaire. Il y en a peut-être un chez Crédit Suisse qu'il faut régler, mais s'il touche pas aujourd'hui le secteur bancaire. Christine Lagarde, elle a monté les taux de 50 points de base, elle sait très bien ce qui se passe à la BCE dans le secteur bancaire. Si elle l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour moi, il y a toujours des risques partout.
Allez, on termine avec la question de Joël. Alstom a chuté d'au moins 15% cette semaine. Est-ce une occasion de monter dans le train ?
Bien sûr.
Elle vous connaît, hein, quand elle pose la question en prenant monter dans le train, elle sait qu'elle écrit à Eric Blaine. Hein.
Bien sûr. Alors, c'est quand même une entreprise complexe hein, dans laquelle Alstom, non pas parce qu'ils font, parce que ça, on sait à peu près tous qu'ils font les TGV, le train et les tramways. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Mais le sujet, c'est qu'en achetant Bombardier, ils ont mis beaucoup de dettes dans leur bilan. Or, on vient d'en parler, c'est compliqué d'avoir de la dette en ce moment. Donc, alors que Bombardier est en redressement, ça, je pense que le marché commence à le comprendre, on a donc cette crise de confiance qui fait que le cours d'Alstom vient à nouveau de baisser sensiblement cette semaine, puisque c'est une des pires performances, hein, moins 15 cette semaine. Et une valeur de restructuration, une valeur en amélioration en termes de performance, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des soubresauts importants. Et donc, elle vient de baisser de 15%. Il y a certainement un potentiel d'autour de 30%, mais c'est pour les investisseurs avertis. Et donc, c'est le bon moment maintenant parce qu'elle a bien baissé.
Juste un petit mot.
Oui, la baisse est justifiée. Ils ont un bilan fragile. Ils ont raté l'an dernier l'occasion de faire une augmentation de capital parce que peut-être qu'on avait un président qui lorgnait plutôt la présidence d'EDF et qui voulait pas se lancer dans cette aventure financière auprès des investisseurs à convaincre. Et donc, résultat, bilan fragile. On a une crise financière. Tout de suite, les investisseurs se disent on va pas rester exposé à une société dont le bilan est difficile. Après, les perspectives restent fantastiques. Opérationnellement, tout va bien.
La baisse est justifiée.
Absolument.
Et donc, du coup, on réserve ça aux investisseurs avertis, à ceux qui ont le goût un peu de taquiner.
La société va survivre, hein, mais c'est un investissement, on va dire, de long terme. Donc, c'est un achat plutôt de long terme.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Donc, François Monnier pour la rédaction d'Investir, Eric Blaine pour Swiss Life Gestion Privée. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à poser. Chaque jour, nos experts vous répondent. BFM Patrimoine. bfmbusiness.fr. Dans un instant, je vous laisse entre les mains de Sandra Gandoin pour 90 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Que nous avez-vous concocté pour cette fin de semaine?
Si on parlait des banques, du secteur bancaire,
bah ça, oui, c'est étonnant.
On ne peut pas passer à côté, évidemment, cette réunion surprise de la BCE pour parler du secteur bancaire. C'est en ce moment, on va y revenir avec Jean-Marc. On parlera aussi de la décision de la Fed la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ce sera dans notre débat. Et puis l'avenir de l'événementiel également, qui va créer sa convention collective après avoir beaucoup souffert du Covid. On en parlera avec Arnaud Chouraki. Aux alentours de 12h15, 12h55, n'oubliez pas, on répond à toutes les questions que vous nous avez posées avec Lorraine Goumeau. Et vous pouvez continuer à nous écrire à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Programme bien chargé encore aujourd'hui, Cédric.
Eh bien, bonne fin de semaine, Sandra. Dans un instant, donc, 90 minutes business. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi matin à 10h. Très bon week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.